franceinter.fr.
Une toute petite étoile, pas plus grosse que Jupiter, et sept planètes rocheuses qui tournent autour. Le cortège exceptionnel d'exoplanètes de l'étoile Trappiste 1 est à la une de la science aujourd'hui.
C'est le premier système où on a autant de planètes telluriques, où on en a autant dans la zone habitable, où on en a autant qui pourraient avoir de l'eau liquide et de la vie. Et c'est surtout le premier où on a ce genre de planète pour lequel une étude détaillée est possible.
Et la voix de l'un des découvreurs de ces nouveaux mondes, le Belge Michael Gillon. Toutes les planètes découvertes autour de cette étoile ont des tailles et des compositions voisines de notre Terre. Certaines pourraient même être gorgées d'eau liquide, une aubaine pour le monde de l'astronomie qui s'agite dans tous les sens depuis hier soir 19h et depuis cette publication dans la revue Nature. Franck Celsis, bonjour à vous.
Bonjour, merci de me recevoir.
Merci d'être avec nous pour nous parler évidemment de cette découverte. Vous êtes co-auteur de ces travaux, astrophysicien et directeur de recherche CNRS à l'Observatoire de Bordeaux. Philippe Hénarejo est également avec nous. Bonjour Philippe. Bonjour. Rédacteur en chef du magazine Ciel et Espace. Franck Celsis, on peut lire et entendre partout dans la presse, d'abord depuis hier, que la NASA a découvert cette exoplanète exceptionnelle. C'est un peu agaçant quand même cette récupération, non ?
Alors agaçant, je sais pas, mais c'est vrai que je dirais le cœur de l'équipe de recherche est en Belgique. Mmh. C'est un projet qui inclut énormément de francophones, ce qui est assez rare pour être signalé, donc des Belges, des Suisses, des Français expatriés. Et il y a une contribution effectivement américaine. Et il y a un instrument qui est un télescope spatial qui s'appelle Spitzer, qui est un instrument de la NASA, qui a joué un rôle déterminant pour compléter l'étude, mais il faut savoir que le système planétaire, il a été découvert avec un télescope conçu et imaginé à l'université de Liège dans le groupe de Michael Gillon, mmh. qu'il est installé au Chili sur un site de l'Observatoire européen, de l'ESO, et bien sûr on collabore avec nos collègues américains. Ce sont eux hier soir qui ont accueilli la conférence de presse, mais dire que la NASA a trouvé, oui, ça c'est un petit peu agaçant.
Alors Philippe et Narejos, cette planète qui tourne autour d'une petite étoile, elle mérite vraiment tout le raffut médiatique qu'on peut voir et lire et entendre depuis hier ?
Alors, il y a deux choses. Effectivement, la NASA a sorti son
tambour.
Son tambour, comme d'habitude, et c'est le même. Hein, c'est, on vous fait l'annonce qu'il va y avoir une annonce extraordinaire. Donc, évidemment, ça suscite d'énormes attentes, parfois un peu inconsidérées. Il n'en reste pas moins que, bon, une fois qu'on sait de quoi il s'agit, c'est un travail intéressant, c'est un travail important. Mais bon, c'est pas, voilà, il faut dégonfler les roulements de tambour pour bien savoir de quoi on parle. En fait, oui, c'est une étude qui est vraiment intéressante, c'est une découverte qui est intéressante pour la recherche en exoplanètes, qui sont ces planètes qui tournent autour d'autres étoiles que le Soleil.
Alors, Franck Celsis, décrivez-nous un petit peu ce système Trappiste 1 et ces sept planètes qui tournent autour.
Oui, alors juste pour dire, moi je dégonflerai pas le roulement de tambour parce que pour moi il est vraiment important. Par contre, je le déplacerai et j'essayerai de, on pourra, si vous voulez en parler, j'essaierai de relativiser un peu les questions qui traitent de la vie ailleurs, de l'habitabilité, pour se rendre compte que ça, ce sont les aspects les plus spéculatifs. Mmh. Et par contre, pour revenir aux caractéristiques que l'on étudie aujourd'hui sur ces planètes, et qui sont effectivement d'une richesse assez extraordinaire.
Alors, pour qu'on puisse vous suivre un petit peu, décrivez-nous quand même ce qui a été découvert.
Tout à fait, tout à fait. Alors, en fait, c'est comme cela a été dit, un cortège de sept planètes autour d'une toute petite étoile. Alors, l'étoile, c'est la clé. Hein. C'est cette étoile qui, par sa toute petite taille et sa faible luminosité, nous permet d'avoir des conditions d'observation exceptionnelles sur des planètes qui, finalement, sont petites par rapport à la plupart des exoplanètes qu'on connaît. Donc, c'est une étoile qui fait 8% de la masse du Soleil, qui fait la taille de Jupiter, ce qui est tout petit pour une étoile, ça fait juste 12 fois le rayon de la Terre. Elle a une luminosité extrêmement faible, 0,05% de la luminosité du Soleil. Donc quand on la regarde, si vous voulez, d'une certaine façon, on n'est pas ébloui, comme on l'est souvent quand on regarde des étoiles de type plus solaire, et ça nous permet de détecter des choses plus fines. Et quand on s'intéresse, on a un intérêt, effectivement, très particulier pour les planètes qui sont de dimension et de température terrestre. Et quand ce sont ces planètes-là qui nous intéressent, quand ce sont ces planètes-là qu'on voudrait ne pas juste détecter, mais aussi pouvoir dans le futur caractériser, eh bien une des idées, c'était de les chercher autour de ces toutes petites étoiles, d'où le projet démarré avec nos collègues belges et suisses d'essayer de détecter des planètes autour de ces toutes petites étoiles qu'on appelle des naines ultra-froides. Et Trappiste 1 a été la première autour de laquelle on a trouvé des planètes. Donc ça, c'était l'an dernier. On a commencé à en trouver deux, plus une troisième dont les caractéristiques n'étaient pas déterminées. Donc on les a trouvées par une méthode qu'on appelle les transits, c'est-à-dire qu'on a la chance d'être bien aligné avec ce système. On a la chance que le plan des orbites est sur la ligne de visée, donc les planètes passent devant le disque de leur étoile après chaque orbite. Et dès lors qu'on savait qu'on était dans cette configuration, on a pu demander du temps sur d'autres télescopes, dans l'espace cette fois, notamment le télescope spatial Spitzer. Et on a pu obtenir, chose exceptionnelle, 21 jours d'affilée de suivi de cette étoile. Et quand les données sont arrivées, on avait dedans 34 transits planétaires et qu'il a fallu un petit peu, il a fallu résoudre le puzzle, comprendre combien il y avait de planètes dans le système. Et au final, on sait qu'on a un système avec au moins 7 planètes, dont 6 sont parfaitement, enfin, caractérisées en termes d'orbite et de rayons. Une septième dont il faudra raffiner les mesurements. Les mesures, et voilà, 7 planètes telluriques, à peu près toutes de la taille de la Terre, dans un système très très ramassé sur lui-même, tout petit en termes d'extension des orbites, qui ressemble plus par certains côtés au système des satellites de Jupiter, hein, vous savez, Io, Europe, Ganymède et Callisto, finalement c'est autant un analogue du système des satellites de Jupiter que du système solaire, et avec bien d'autres caractéristiques qui pour nous sont exceptionnelles, notamment en termes de poursuite des observations.
Juste un mot, Philippe, ce nom de Trappiste-1, c'est un coup des Belges, c'est ça?
Oui, bien sûr, hein, parce que c'est leur télescope qui s'appelle comme ça, c'est un télescope automatique, il y en a deux, un dans l'hémisphère nord et un au Chili, comme ça a été dit, sont des télescopes de 60 cm, c'est pas des très gros télescopes en termes de diamètre, mais par contre, ils mesurent très très bien la variation de luminosité de chaque étoile pour voir si des planètes passent devant ou non.
Alors, Franck Celsi, vous avez dit que vous vouliez dégonfler un petit peu l'histoire de la recherche de la vie. Qu'est-ce qui est réellement intéressant de ce point de vue-là dans ces 7 planètes?
Bah, en fait, ce qu'il faut comprendre, quand on parle de recherche de la vie, c'est que, en fait, on ne sait pas trop comment la chercher. C'est-à-dire qu'en fait, déjà, on ne connaît pas bien les origines de la vie, on connaît même ça très mal, c'est très mystérieux. Une des questions qu'on peut avoir, c'est qu'est-ce qui fait que la Terre a eu cette capacité de voir la vie y émerger et y perdurer. Pourquoi Vénus et Mars ne sont pas dans ce cas-là? Donc tout ce qu'on a essayé de comprendre jusqu'à présent vient de la comparaison de ces 3 planètes. On pourrait ajouter Mercure, mais Mercure n'a pas d'atmosphère. Elle n'a pas d'eau, n'a pas de volatiles. Donc c'est en comparant Vénus, la Terre et Mars qu'on a commencé à se faire une idée de qu'est-ce qui peut-être faisait de la Terre une planète, avec beaucoup de guillemets, habitable. Mais on est à un stade très très primitif de cette compréhension. Et effectivement, la Terre a été transformée par le vivant. On a une atmosphère riche en oxygène qui est produite par la vie, qui existe depuis à peu près la moitié de l'histoire de la Terre, depuis 2,5 milliards d'années. Donc c'est vrai que si un observateur extérieur regarde la Terre, il va voir qu'il y a une atmosphère riche en oxygène. Et nous, on sait que cet oxygène vient de la vie. Est-ce que cet observateur extérieur comprendrait que c'est là une signature de vie? On ne sait pas. Donc tout ce qu'on spécule, on le fait à partir de ces 3 planètes du système solaire. Avec déjà Proxima B l'an dernier, avec les 7 planètes de Trappiste, on va pouvoir étendre cet échantillon et puis finalement commencer sérieusement à comprendre ce que sont les planètes telluriques, les planètes comme la Terre, comment elles se forment, quelles sont leurs diversités, leurs variétés en termes de composition, de climat, d'atmosphère. Et c'est ça la richesse de Trappiste, c'est que premièrement, contrairement à beaucoup d'autres systèmes d'exoplanètes telluriques où on n'a que les rayons, là, on a aussi une contrainte sur la masse des planètes, parce que comme ce système est très ramassé, les planètes interagissent gravitationnellement entre elles. Elles n'ont pas des orbites régulières, elles accélèrent, parfois elles ralentissent, ce qui nous permet de déduire la masse de chacune de ces planètes. À l'heure actuelle, on a fait ça avec 21 jours d'observation Spitzer. Les barres d'erreur sont encore importantes, mais ça va se raffiner au cours du temps. Et on a déjà l'impression, notamment sur l'une des planètes, qui est la planète F, que sa densité indique qu'elle est riche en eau.
Ah oui, donc la question de l'eau liquide, elle est cruciale, évidemment.
Bien sûr, oui, c'est-à-dire que, à nouveau, l'analogie avec le système des satellites de Jupiter, ce sont des satellites glacés qui sont composés à peu près d'autant de glace que de roche. Est-ce que on est plutôt dans des planètes vraiment rocheuses avec pas d'eau ou très peu d'eau, comme la Terre, parce que finalement la Terre n'a que 0,1% de sa masse en eau, ça ne se voit pas dans la densité de la Terre, c'est une goutte d'eau sur un caillou de la taille d'une orange, si vous voulez, en comparaison. Là, si la densité de la planète F se confirme, on aurait une planète où il y aurait une énorme quantité d'eau. Et comme cette planète-là, elle a une insolation qui est comparable à la Terre, eh bien, dans ce cas-là, cette eau, elle va se retrouver, au moins à certains endroits, voire sur toute la planète, à l'état liquide. Et ça, c'est une première étape, mais pourquoi on cherche des planètes autour de petites étoiles? Bien sûr, peut-être qu'on pourrait dire on préférerait trouver des cousines de la Terre qui sont des planètes qui orbitent autour d'un soleil, d'une étoile similaire au soleil. On va autour des petites étoiles parce que là, on sera dans des conditions pour, à partir de la fin de l'année prochaine, avec le télescope spatial James Webb, pouvoir vérifier si ces planètes ont des atmosphères ou non et détecter certains des constituants atmosphériques. Donc on va vraiment faire de la planétologie comparée. On va comparer ces planètes à celles qu'on a dans le système solaire. On va comparer ces planètes entre elles. Pourquoi ? Est-ce qu'elles auront des compositions similaires ? Est-ce qu'on verra des différences en fonction de la distance à leur étoile ? Et on va passer de 3 planètes qui nous ont permis de construire notre savoir en termes de sciences planétaires à 3 planètes, plus 7, plus Proxima B, et puis plus toutes les autres qu'on va trouver, tous les autres Trappist-1 qu'on espère trouver.
Allez, Franck Celsis, un dernier mot, Philippe Hénarejos, pour conclure sur cette découverte.
Tout a été dit. Ce qu'il faut retenir, c'est que c'est effectivement la recherche d'éléments de vie, d'habitabilité, c'est encore très hypothétique, enfin très très spéculatif, y compris dans la définition de ce que les astronomes appellent la zone habitable. Donc il est très important d'avoir ces planètes-là qui sont, je le rappelle, autour d'étoiles proches. Enfin, celle-là, Trappist 1, c'est proche 40 années-lumière, 39 années-lumière. Proxima B, c'est 4 années-lumière, 3. Donc l'avantage, c'est qu'on va pouvoir effectivement les observer, peut-être avec le JWST, qui est un télescope spatial qui part normalement dans l'espace l'an prochain, mais aussi avec des télescopes de génération suivante, avec d'autres instruments. Et ça, les informations que nous avons sur les exoplanètes aujourd'hui, elles sont très, très, très parcellaires. On va pouvoir commencer à compléter et à essayer de comprendre ce qu'on voit, à essayer de voir si les spéculations qu'on fait sur l'habitabilité sont exactes et à progresser dans cette quête d'une vie ailleurs, quand même.
Merci beaucoup, en tout cas, Franck Celsis. Je rappelle que vous êtes co-auteur de cette publication dans Nature. On pense savoir plus sur Ciel et Espace, justement, hein, Philippe, avec un article et puis une bande dessinée qui est très chouette,
oui,
là,
qui est
sous les yeux.
Qui est formidable.
Voilà, pour observer la constellation du Verseau.
C'est qui nous a fait ça et on l'a publié. Elle est longue, mais elle décrit très bien cette recherche.
Et cette
la vulgarise, c'est vraiment très beau.
Voilà, c'est sur le site ciel-espace.fr. Merci beaucoup, Franck Celsis.
Merci à vous.
Et Axel, à demain.
À demain.